Bonjour David, bonjour à tous. Comme chaque année en cette période, la bronchiolite est de retour. Nous ferons le point dans un instant. La Confédération Paysanne s'élève contre les panneaux photovoltaïques au sol. Deux zones en bocage bressuré sont notamment dans le viseur du syndicat agricole. Le second festival du film agricole hors champ du 6e du bocage ce soir au fauteuil rouge de Bressuire. L'occasion de découvrir les actions de ses membres pour améliorer leur système de production. Les nouveaux arrivants toircés récemment reçus par la municipalité toircaise. Pourquoi ont-ils choisi de vivre à Thouars? Certains nous ont livré leurs impressions. Le cross UNSS de l'Académie, hier après-midi à Cerisay, un millier de collégiens et lycéens y ont pris part. Quant à la météo, des nuages cet après-midi, mais pas de pluie annoncée. Le pic de la crue est passé à Niort. La décrue s'amorce. Depuis la fin de la matinée hier, les habitants assistent en effet à un retrait progressif des eaux. Aucune personne n'a dû être relogée, indiquait hier le maire Jérôme Baloge, invitant tout de même à une certaine prudence en respectant les balisages et les barrières. Avec une cote à 12,50 m, cette crue de la Sèvre niortaise a été remarquable, mais encore assez loin des crues que la ville a connues en 1994 et 1995. D'autres villes du département sont touchées par des inondations similaires, c'est notamment le cas à Saint-Mexant-l'École où là aussi plusieurs routes ont dû être fermées. À quelques jours des fêtes de fin d'année et des rassemblements en famille, la circulation des épidémies hivernales s'intensifie en France. Si la grippe fait son arrivée, mais on ne parle pas encore d'épidémie, le Covid poursuit sa remontée. Dans ces deux cas, les services sanitaires appellent à la vaccination pour notamment éviter de surcharger les services des urgences déjà en tension. La bronchiolite a sans doute, elle, atteint son pic. Si cette maladie respiratoire touche généralement les enfants de moins de 2 ans, mais surtout lors de leur première année, si la maladie se guérit souvent spontanément, elle peut être grave, voire dans certains cas très grave, chez les jeunes enfants prématurés ou porteurs de maladies chroniques. Le point avec le docteur Sylvie Kellé, directrice de projet à l'ARS, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
On est à 36% des enfants qui passent aux urgences qui sont hospitalisés. Parmi ces 36%, 27% sont des bébés de moins de 3 mois. Depuis 1999 à cette année, on avait un traitement préventif, le Synagis, qui s'administrait en une dose par mois pendant la durée de l'épidémie, soit 5 doses en général. Et ces doses étaient réservées aux enfants très à risque, les prématurés de moins de 35 semaines ou les enfants porteurs d'une maladie cardiaque ou d'une maladie respiratoire. Depuis cette année, on a une grande chance parce qu'on bénéficie d'un autre traitement préventif, c'est un anticorps monoclonal également, qui s'appelle le Befortus. Et on fait partie des 4 pays au monde qui bénéficient de ce traitement. Les doses proviennent d'un stock état, donc ce n'est pas des médicaments qu'on peut aller acheter à la pharmacie, c'est un stock état. On a souhaité également prioriser un certain nombre de maternités qui accueillaient des enfants transférés, notamment ces maternités qui avaient des services de néonatologie.
En France, environ 30% des enfants de moins de 2 ans sont touchés chaque année par la bronchiolite, soit quelque 404 000 nourrissons par an. La Confédération Paysanne se dresse contre les panneaux photovoltaïques au sol. Alors que les conseils municipaux, je vous le rappelle, définissent en ce moment leur zone d'accélération pour la production des énergies renouvelables, le syndicat agricole alerte les élus et la population sur la nécessité de défendre l'agriculture nourricière. Écoutez Benoît Jeunet, c'est le porte-parole de la Confédération Paysanne en Deux-Sèvres. Il répond à Fabien Gazot.
Il y a une volonté d'accélérer et faire de l'énergie et on va continuer à prélever des terres agricoles qui jusque-là étaient exploitées, jusque-là par des paysans, pour faire de la nourriture. Et on va changer de destination à 100% parce que les centres photovoltaïque au sol. On couvre la totalité du sol et donc là, effectivement, ça nous alerte en disant mais c'est juste pas possible qu'on continue à prélever et demain, on va mourir de faim. Il faut continuer à développer des énergies renouvelables, mais sur des terrains déjà artificialisés, des toitures, des parkings, sur les entreprises ou les maisons. Et là, déjà, il y a suffisamment de place plutôt que d'aller couvrir des terrains.
En Bocage-Bressuire, deux zones ont particulièrement mis en alerte la Confédération Paysanne. À Nueil-les-Aubiers, sur une zone de 27 hectares. Et au Pin, avec une zone de 15 hectares sur le parc économique de la Lune, sur des terres qui étaient exploitées il n'y a encore pas si longtemps que cela.
À Nueil-les-Aubiers, c'est de la prairie. Et jusqu'il y a 4 ans, il y avait encore de l'élevage. Et ici, dans la zone de la Lune, au Pin, jusqu'il y a encore 2 ans, c'était mis en culture. En céréales.
Ne tombons pas dans le panneau alerte la Confédération Paysanne qui estime que la nécessaire décarbonation de l'énergie ne doit pas masquer la course au profit des promoteurs.
Si elle doit prélever des terres agricoles pour y faire de l'énergie, c'est à la collectivité de le porter, y compris dans l'investissement et donc dans la partage de la richesse grâce à cet investissement-là. On ne doit pas favoriser des zones pour que des opérateurs privés viennent faire de l'argent sur des terres agricoles qui nous nourriraient, qui rendraient service à la société. C'est d'abord la sobriété qui nous amènera des solutions. Et quand on aura besoin de produire, c'est à la collectivité de le décider et pas à des intérêts privés.
La Confédération Paysanne alerte donc sur le développement des zones d'accélération en ce qui concerne le photovoltaïque au sol. Le CIVAM organise de son côté son festival du film agricole, une seconde édition de Hors-Champ ce soir au cinéma Le Fauteuil Rouge à Bressuire. Et pour cela, le CIVAM a fait appel au grenier d'images et sa réalisatrice Sophie Arlot pour 3 courts-métrages de 7 à 20 minutes. Chacun d'entre eux illustre des thèmes dont se sont emparés les groupes de travail du Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural du Haut-Bocage. L'objectif commun étant d'améliorer par l'expérience collective les systèmes de production. Céline Vroman est la coordinatrice du CIVAM. Elle évoque au micro de Fabien Gazou le premier court-métrage, celui consacré à la transmission à travers un exemple concret à Boussé. En l'occurrence,
la question de la transmission est une question un peu fondamentale, en tout cas sur le territoire, mais pas que, de la transmission des fermes de polyculture élevage de type agroécologique, ou en tout cas qui prennent en compte l'importance des questions de biodiversité, des questions de bien-être animal, des questions aussi d'équilibre vie pro-vie perso. Donc voilà. Tout ça fait que ça a été considéré important de laisser à l'image des essentiels.
Le deuxième film, lui, s'intéresse à la manière dont le groupe a valorisé la viande caprine. C'est un débouché important.
Oui, c'est un débouché important. C'est surtout, en tout cas pour eux, important de communiquer sur le fait que la viande de cabri est une viande très bonne au goût. Pour eux, c'est très important pour permettre à l'équilibre économique de leur exploitation de pouvoir valoriser ce produit qui n'est pas un sous-produit, mais qui est bien un produit à valeur importante. Ce festival Hors-Champ, c'est bien de mettre à l'image auprès du plus grand nombre ce qui se passe sur le territoire, la réalité de ce que peut être une agriculture durable.
Le troisième court-métrage s'intéresse, lui, au changement climatique à travers l'adaptation en élevage bovin. 3 séquences entrecoupées d'échanges avec le public. Lors de la première édition, le CIVAM avait rassemblé un tiers d'étudiants, un tiers d'adhérents et un tiers de grand public. C'est à nouveau l'objectif recherché lors de cette deuxième édition. Ce jeudi à partir de 20h15 au Fauteuil Rouge à Bressuire, l'entrée est fixée à 5 euros. 7 questions maintenant dans ce journal. Pourquoi choisissent-ils de vivre à Thouars? Environ une 60aine de familles, couples ou en individuel, s'installent en effet à Thouars chaque année. Ces petits nouveaux ont des profils très différents, mais ils ont droit à une même cérémonie d'accueil officielle, célébrée tout dernièrement. Parmi eux, des retraités comme Jean-Pierre, débarqué de Saintes en Charente-Maritime, comme réfugié climatique et économique. C'est d'ailleurs son épouse qui a donné le top départ, comme l'a indiqué l'ancien postier, au micro-colline de notre correspondant en Thouarsé, Dominique Hérault.
Je trouve que c'est trop chaud, donc on souhaitait avoir un ou deux degrés de moins. Mais en fait, c'est plutôt un migrant économique, c'est-à-dire qu'on était locataire, c'est comme on voulait acheter une maison. Entre la maison qu'on a sur Thouars et celle qu'on aurait pu avoir à Saintes, c'est 100 000 euros de différence. Hein, donc c'est aussi le budget qui nous a fait monter vers le nord des Deux-Sèvres. Et on a préféré Thouars parce que ça nous semble mieux situé. C'est au centre d'un cercle où on peut toucher Tours, Poitiers, Nantes, Angers, Saumur. Et puis il y a une gare encore à Thouars. On regrette pas parce que je trouve ça pas mal. Il y a l'école municipale d'art plastique, il y a le conservatoire pour la musique, l'art contemporain, la chapelle Jeanne d'Arc. C'est des choses qu'on n'a pas dans beaucoup de villes de cette dimension. Moi j'aime beaucoup le paysage thouarsé, le Thouet a une forte présence, le paysage de viticole, c'est toujours très bien.
Jean-Pierre déplore cependant le manque d'ambiance des bars en ville. Seul le MZ associatif trouve grâce à ses yeux. À côté des retraités, un couple de jeune trentenaire actif, William, ancien policier, et Mathilde, la psychologue, tous deux ont eu le déclic.
On a regardé un peu sur la carte, on a vu que c'était une ville proche de Saumur, d'Angers, et ça nous a arrangé par rapport à nos familles respectives, Nantes et Orléans. Et Thouars a l'avantage aussi d'avoir une gare. On a accès à ces grandes villes et même à Paris assez rapidement. Elle a installé son cabinet de psychologie sur Thouars et les gens sont très contents de son arrivée. Le petit Tobias est né au mois de mars. Thouars nous permet d'avoir accès aux écoles tout à pied, collège jusqu'au lycée. Quand on est arrivé à Tours, on a remarqué qu'on pouvait avoir une grande maison de ville pour le prix d'un T2 à Nantes. Donc quand on construit une famille avec des enfants, c'est vraiment un atout indéniable. L'avantage de Tours, c'est qu'il y a un centre-ville vivant en rénovation. Et après, on a remarqué que les bords de Tours, les forêts, c'était vraiment un atout. C'est qu'à 10 minutes à pied, on peut se déconnecter de la ville et se trouver dans un endroit calme et reposant.
William, qui œuvre à la maison de retraite d'Oiron en préparant une reconversion vers la sophrologie, est tellement séduit par le charme Tours, c'est qu'il vend la qualité de la ville à ses amis, histoire peut-être d'assurer le succès de la prochaine cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants par la municipalité, laquelle peut y voir accessoirement un intérêt pour son économie locale, mais aussi pour ses recettes fiscales. Reportage signé Dominique Hérault. Le parc du Pigeonnier de Cerisay accueillit hier après-midi le cross UNSS de l'Académie. Environ un millier d'élèves étaient réunis, venus des Deux-Sèvres, de la Vienne et des Charentes, sur ce site taillé pour le cross avec ses relances incessantes et un parcours rendu gras par les conditions météo. L'expérience du SBAC a été mise à profit pour aider les équipes de l'UNSS à organiser au mieux les 8 courses au programme hier après-midi pour ses collégiens et lycéens. Claire Machefaux, directrice du service UNSS de l'Académie de Poitiers, au micro de Fabien Gazeau.
C'est l'épreuve phare de l'année parce que ça rassemble énormément d'élèves, parce qu'il y a une continuité, c'est-à-dire qu'on part d'une crosse d'établissement, crosse de district, crosse départementale jusqu'au crosse académique là aujourd'hui. Et c'est vrai que ça entraîne beaucoup d'émulation, beaucoup de monde. Et que c'est vrai que cette journée crosse, c'est une épreuve phare, une épreuve forte de l'année UNSS. On est dans une course qui est qualificative pour les championnats de France. Ils savent ce que c'est qu'un cross et savent ce que c'est que l'épreuve du cross. Et c'est mieux parce qu'ici, à Cerisay, dans le parc du Pigeonnet, le parcours est exigeant.
On le voit. Alors, il y a le sport, évidemment, mais il y a aussi tous ces jeunes qui passent un bon moment ensemble. C'est aussi ça, l'objectif de l'UNSS.
Exactement. C'est l'esprit, tout à fait. Donc, on a un classement qui se fait par équipe. On court pour son équipe. C'est là aussi que l'effort est beau parce que on va jusqu'au bout de soi pour donner le meilleur résultat à son équipe en filles et en garçons. Et il y a également les équipes de sport partagé. Donc pour rappel, sport partagé, ce sont des équipes qui sont constituées d'élèves valides et d'élèves en situation de handicap.
Dans la catégorie cadet, 2 de Sévrier ont terminé sur le podium. Mathis Marchive, deuxième du lycée de la Venise Vertagnore, et Lucas Papeau qui a lui terminé troisième. Il est scolarisé au lycée au Val-de-Sèvre de Saint-Mexant. Et derrière, un Poitevin intouchable. Ils ont quasiment fait toute la course ensemble jusqu'à la chute de Lucas. Et c'est Mathis qui s'élance le premier dans l'environnement ambiant. C'est comme si vous y étiez.
C'est parti très très vite devant. Je pensais que j'allais pas suivre. Après, je suis repassé devant au niveau de la descente. Le premier était vraiment très très fort parce que
il a été très très à l'aise.
Après, je suis tombé, il est parti devant, il avait bien raison, il est très fort dans les descentes. C'est bien joué pour moi, c'est bien joué à lui. Il fait une très belle course.
Bien. Alors, vous êtes licenciés tous les deux en club?
Au Stade Niortais, échange section sportive du coup à la Venise Verte.
Moi, je suis avec Guy-Marie Guéret. Je m'en vais, je fais du foot à côté. J'essaye de faire un peu les deux.
Donc, le cross, c'est la préparation hivernale pour la suite de la saison, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Moi, je fais de la route, je fais du 5000. Et j'essaye un peu de faire un peu de 10 000. Donc là, je suis plus sur des préparations longues que du coup.
Et je pense plutôt faire du 800 et garder les crosses pour les UNSS.
Le cross académique hier à Cerisay était donc qualificatif pour le championnat de France qui aura lieu à Dole de Bretagne en mois de mars prochain. Hier, la Ligue nationale de basket a dévoilé la sélection des joueurs qui participeront le 30 décembre prochain au concours de dunk du All-Star Game 2023. L'ailier de Cholet Basket, Tidjane Saloun, a été retenu. La disparition de Claude Tétard, originaire de Montcoutan, ce dernier s'est éteint à l'âge de 79 ans. Il avait été à la tête de deux entreprises phares et emblématiques du bocage, JC Confection et C2S, et fut également président de l'Union française des industries de l'habillement. Ses obsèques seront célébrées samedi en l'église Notre-Dame de Bressuire. Autre disparition, celle d'Alain Bibard, à l'âge de 76 ans. Ancien maire de Bretignolles, il avait été élu en 2015 président de la Maison de l'Emploi du Bocage Bressuire en tant que représentant du Collège de l'économie sociale et solidaire. Il a également été membre du conseil de surveillance des ateliers du Bocage. Un hommage lui sera rendu demain matin au crématorium de Bressuire.